Dieu soit béni, bonjour à tous et à toutes. On va commencer par invoquer le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui instruis le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous. Alors, est-ce que je dois réexpliquer ou est-ce que tout le monde connaît un petit peu? Il n'y a pas de nouveau visage. La garde d'honneur, le charisme. Je suis désolée pour le parloir qui est un petit peu simplifié. Ça va revenir. La communauté est un peu occupée, hein, donc, avec l'élection. Donc, comme ceux qui ne le savaient pas, j'avais peut-être confié, je pense, la dernière fois, donc notre mère Marie-Jean a été réélue pour la joie de la communauté, donc 3 ans. Et donc, bien prié pour elle. Et puis voilà, donc elle, on est en ce mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur, hein, et d'ici quelques semaines, donc le 27, nous allons fêter le Sacré-Cœur. Et bien, donc ça va être l'occasion aujourd'hui d'en parler, entre autres, parce que pour certains, c'est pas obligatoirement une habitude, quelle couleur a cette fête. Mais avant, on s'était arrêté la dernière fois sur... toujours la deuxième apparition de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, et on avait vu qu'il lui montrait son impuissance pour lui donner les moyens de réparer toutes ces froideurs et rebuts qu'il pouvait recevoir de la part de ses amis, et entre autres nous autres qui sommes gardes d'honneur. Et aujourd'hui, si j'avance, et je voudrais revenir un tout petit peu, parce que ça, on va dire... j'allais dans mon thème, de revenir un tout petit peu sur l'impuissance qui aujourd'hui, c'est un mot qu'il ne faut surtout pas prononcer, il faut être tout puissant. Et il s'avère que justement, avec la fête du Sacré-Cœur, il nous faut juste découvrir ce que c'est que notre impuissance. Et c'est pour, en tout cas pour moi, c'est une bonne nouvelle de se trouver impuissant. Hein, c'est pas confortable, ça on va le voir, et de toute façon on en fait tous l'expérience, mais il y a quand même une évangélisation à vivre dans nos impuissances. Et si je vous dirais, si vous n'avez pas d'impuissance, il faut en trouver une, quoi. Hein, parce qu'on est du coup autosuffisant, et là on se donne la mort. Hein, regardez notre société, elle se suicide à petit feu, il faut cette puissance sur tout, absolument sur tout, la vie, la mort de n'importe qui, et ça montre derrière justement cette peur de l'impuissance. Et si on arrive, et c'est un petit peu le défi d'aujourd'hui, à apprivoiser son impuissance, ben c'est là qu'on est fort, parce que dans notre impuissance, Dieu va pouvoir se déployer, il est notre force. Hein. Mais si on supplante sa place, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein, donc, et je suis désolée, contrairement à ce qu'on croit, nous ne sommes pas tout puissants. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose qui a été à redécouvrir. Hein, nos sociétés nous font croire qu'on est tout puissant. Tout marche par Internet. Je résume, mais en gros c'est toujours ce discours qu'on a. Hein. Non, rien ne marche par Internet. Le monde tient parce que Dieu veut le tenir. Hein. Tout existe par lui et rien, mais absolument rien du tout, ne se fait sans lui. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'il nous faudra toujours recreuser, parce que le mystère de la divine providence est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'on comprend quelque chose du mystère de la providence, et puis hop, on passe une épreuve, parce que c'est à travers l'épreuve que le Seigneur nous façonne, hop, on redécouvre quelque chose du mystère de la providence. Ah ben t'étais là, je pensais pas que tu pouvais être caché par rapport à un sentiment de haine, par exemple, ou de colère qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Eh bien, si on va jusqu'à voir Dieu en tout, ben Dieu, je suis désolée, il va nous accompagner même dans le péché, parce que lui, il sait la miséricorde qu'il va pouvoir nous donner. Donc, il n'y a rien de notre vie et de ce qu'on sent qui ne lui est pas familier. Alors voilà, je commence. Alors, la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur lui montrant mon impuissance. il me répondit, « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consommée, car je fus toute pénétrée et ne pouvais plus la soutenir lorsque je lui demandais d'avoir pitié de ma faiblesse. Et là, qu'est-ce qu'elle entend ? « Je serai ta force, me dit-il, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour disposer à l'accomplissement de mes desseins. » Et ce qui est amusant, enfin, entre guillemets, il ajoute, il lui demande alors la communion fréquente, la communion réparatrice et les premiers vendredis de chaque mois. Et pour écouter sa voix, hein, donc il lui montre son cœur, ne crains rien, je serai ta force. Et qu'est-ce qu'il lui demande ? La communion fréquente. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais juste, donc, comme je vous le disais tout de suite, approfondir avec vous ce que Jésus montre à Sainte Marguerite Marie, donc son impuissance. Hein. Alors, nous, on a bien d'autres raisonnements que celui du Seigneur quand on est face à des injustices. Eh bien, on ne part pas devant l'injustice avec l'impuissance. Donc aujourd'hui, on fait disparaître l'impuissance de nos sociétés. Hein, nos sociétés modernes, donc si on pense à l'avortement, à l'enfant inutile, à l'enfant handicapé, à la personne âgée, elle est impuissante de produire quelque chose, elle est inintéressante. Hein. Même nous, il faut nous questionner sur l'inutilité, en somme, nous, pour la société qui est la nôtre, des religieuses enfermées dans un couvent, est-ce que vous croyez que c'est utile ? Nos impôts, si, ça, pour ça, ils sont utiles pour eux, ça. mais par contre, souvent, et j'aime assez le mot, on ne sert à rien, on sert quelqu'un. Voilà. Donc, c'est clair que dans vos vies, dans vos situations familiales, il y a des situations que vous trouvez inutiles à vivre, hein, qui servent à rien. Hein. Je me sens inutile. Creuser, qu'est-ce que ça veut dire d'être inutile, hein. C'est aussi encore un élément d'impuissance. Et, est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas été, pour ceux qui se trouvaient, hein, la première garde d'honneur au pied du calvaire, inutile, hein, impuissante à sauver le monde? Alors Marie, la femme de foi par excellence, ne savait, elle, dans son cœur, que c'était pas inutile, mais voilà, ils n'étaient pas très nombreux quand même à former la première garde d'honneur. Hein. Donc on cherche à s'en débarrasser. Hein. Alors que Jésus, en lui montrant son impuissance, il lui montre que c'est par là qu'elle va pouvoir réparer. C'est pas par une multitude de sacrifices, hein, de privations. Alors c'est la religieuse qui vous dit ça. Et en simplicité, je n'y crois pas. Hein. Alors même si je fais des sacrifices et des mortifications, mais si je me contente, on va dire, et c'est bien suffisant, de ma règle. Hein. Quand on se penche un petit peu sur la question de l'orgueil, de l'amour propre, on peut, et ça c'est le génie de notre saint fondateur, produire beaucoup de sacrifices et engraisser un orgueil démesuré. Et ça n'a jamais sauvé, en somme, l'orgueil n'a jamais sauvé l'humanité. Donc, du coup, c'est pas l'orgueil qui sauvera, ni les sacrifices, c'est l'amour. Par contre, de se contenter de quelque chose qui nous est demander, alors par exemple, vous qui êtes dans le monde, je me suis engagée près de ma femme à servir la table tous les jours à telle heure, et bien c'est cet acte réitéré fait par amour qui sauvera, qui apportera quelque chose à ma famille, qui sauvera une âme, hein. C'est pas le pain sec ou l'abstinence alimentaire qui sauvera une âme, hein. C'est derrière, c'est rentrer dans une indifférence, c'est-à-dire dans mon impuissance, et notre saint fondateur qui a basé sa vie spirituelle sur l'indifférence, tout accueillir, mon mystère derrière en filigrane de la Providence, tout accueillir de la main de Dieu et de tout aller à Dieu. Donc avec cette indifférence, donc il demande de ne pas avoir de choix. Et l'amour propre nous fera toujours choisir, et selon le zèle qu'on aura, choisir soit la difficulté ou la facilité. Mais c'est encore le moi qui choisit, qui est encore là. Hein. Alors quand vous n'avez pas à choisir, mais vous vous tenez à un règlement, vous voyez bien qu'à la longue, au fil des ans, ça lime, hein, Et là, on sent, si vous voulez, que ça creuse justement une impuissance d'exister à soi-même, parce que c'est ça l'humilité. Et dans ce non-existence à soi-même, Dieu peut prendre la place. Et du coup, dans l'impuissance, il peut se déployer. Et c'est lui qui donnera, ce qu'il le dit à Sainte Marguerite Marie, c'est par ton impuissance que je vais pouvoir, moi, consoler, en somme, me consoler, réparer tous les outrages qu'il peut recevoir. Il est le réparateur par excellence. C'est lui, c'est son sacrifice qui portera des fruits. Les nôtres, non. Sauf si, alors on va le voir plus tard, on les raccroche, donc c'est ce que vous faites avec votre heure de présence jour après jour. Elle a du sens, notre heure, que si on la vit en communion avec lui. Mais faire quelque chose par nous-mêmes et pour nous-mêmes, là du coup, c'est inutile. Ça sert strictement à rien. Alors du coup, en quoi l'impuissance est-elle une bonne nouvelle ? Nous naissons blessés dans notre nature et cette blessure, conséquence du péché originel, est vécue comme un manque d'être, donc on cherchera alors à combler, et ça c'est tout le jeu de l'orgueil, ce manque par compensation, ce qui fait que chaque humain cherchera à se constituer une identité compensatoire, différente l'un de l'autre selon la forme de sa blessure. Donc on se fabrique un ego, qui est bien sûr différent du véritable soi. C'est ça que notre société... on voit bien que cette absence de Dieu, on a c'est une présence de l'orgueil. Il faut toujours réussir. La vulnérabilité, la faiblesse, c'est intolérable. Plus l'absence de Dieu est signifiée, plus l'orgueil se déploiera. Nos premiers parents ont mis la main. Gardez ce petit geste dans votre tête, si vous savez utiliser votre imagination, le fait qu'on soit marqué par le péché originel, qu'est-ce qui peut, on va dire, symboliser, c'est ils ont mis la main sur le don que Dieu voulait leur faire. Et nous, à chaque fois qu'on n'entre pas dans cette impuissance, on la rejette, on met la main sur le don de Dieu. En somme, on veut s'en sortir par soi-même. C'est encore une autre définition de l'orgueil, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cette impuissance nous ouvre les mains. Faut accueillir quelqu'un, faut accueillir quelque chose, un don. Par contre, quand on est dans cette démarche de se substituer à Dieu, du coup, au don de Dieu, d'être le réparateur, eh bien, on prend. Et c'est un petit moyen pour se rendre compte dans son attitude intérieure de sa vie spirituelle. Si je suis justement dans la démarche de j'accueille l'humiliation qui m'est faite, ou alors je pars à cette humiliation en compensant mon manque d'identité, et là je vais prendre soit quand j'ai un discours qui est faux, soit une attitude ironique, c'est une façon de prendre et de compenser notre identité. Quand Jésus montre à notre sainte sœur son impuissance, il lui montre son incapacité à répondre par elle-même à ce qu'il lui demande. Le péché originel, comme je viens de l'expliquer, nous fait mettre à la source de notre propre existence. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout envie de dépendre aujourd'hui de Dieu, d'une machine, ça par contre. L'écran, ça par contre, qu'est-ce qui peut en dépendre? Mais alors, surtout pas de Dieu. Pourtant, on y gagnerait, au change. Et notre ego est construit en fonction de cette impuissance. C'est pour ça qu'il faut la découvrir pour pouvoir aller voir les racines de notre orgueil, sur quoi elle s'appuie, sur quoi il s'appuie cet orgueil, dont nous faisons tous l'expérience. Alors je campe un petit exemple pour vous aider. Dans un même exemple, par exemple avec deux comportements différents pour bien comprendre, je dois faire par exemple une conférence. J'y travaille, donc j'acquiers les compétences, je me donne les moyens, mais à la fois je sais bien que si j'ai passé toute ma nuit à répéter ma conférence, je sais que je suis limitée et du coup je peux sentir à l'intérieur de mon être une certaine fragilité. Bon voilà, donc je vais dire oui à Jésus, je consens à mon impuissance. Vous avez tous passé des examens, on dit bon, on fait ce qu'on peut, mais après le résultat ça t'appartient. Ça relève de ça, donc on sent bien qu'on est quand même limité. Après, Seigneur, si tu veux me donner le succès, merci Seigneur. Donc mon essence de la réussir. Pour que mon impuissance devienne le lieu, vous ne pouvez, du lieu où vous ne pouvez rien faire sans moi, hein, je peux aussi masquer mon impuissance, me sachant trop limitée sur tel et tel sujet, en me créant un personnage qui se veut être sûr de lui et ne s'autorisant à aucun échec, parce que l'échec est pour moi synonyme de faiblesse. Donc on va faire et beaucoup faire. Hein. Et du coup, vous voyez, dans la démarche de la réparation, on entend des fois dans la vie spirituelle de certaines personnes, eh bien, on multiplie les prières. Alors, toujours pareil, c'est comme si une religieuse qui vous le dit, c'est bien. C'est toujours une démarche de cœur à cœur et pas de quantité de paroles. Hein. Et on touche un petit peu les anciens sacrifices de l'Ancien Testament. C'est, la démarche, elle est... C'est reconnaître que je vais ne pas pouvoir faire ce que je suis bien incapable de faire. Hein. Et dans ce consentement que je sens, c'est des fois même physique, hein, c'est la peur au ventre, la sueur, tout ça, il nous a fait, on est à lui. Certes, si c'est commandé par tout un système hormonal, je suis désolée, Dieu est derrière le système hormonal. C'est nécessaire que dans notre être, on sente cette impuissance pour pouvoir lui demander, suppléer, voilà. Alors, évidemment, c'est comme je le disais, c'est pas confort, hein, parce qu'il faut comme il faut se sentir fort, mais c'est pas parce que au cours de la conférence vous vous sentirez faible que Dieu ne fera pas quelque chose. Et le Dieu qui fera quelque chose n'est pas obligatoirement senti. Voilà. Donc l'adhésion à notre impuissance lui permet de se déployer. Et petit à petit, au fil du temps, on s'approprie cette impuissance. Hein. On sait que c'est le terreau, en tout cas pour un garde d'honneur, qui nous équilibre par rapport à notre foi. Hein. Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. Et la tentation de supplanter le voisin par la brillance, par justement la réussite. Hein. Aujourd'hui, quand deux mères de famille se retrouvent en fin d'année sur le marché de Talensac, qu'est-ce que fait votre fils l'année prochaine? Mince, je vais peut-être éviter la voisine parce que justement il est en plein échec et je ne sais pas trop quoi lui dire à ma voisine parce qu'elle va me regarder de travers. Eh bien, c'est pas de l'impuissance ça. Hein. On en a tous des situations de ce genre. Hein. Il y a un appel à l'évangélisation, nos évangélisations intérieures, mais du monde. La manière dont on va se faire visiter notre impuissance pour que la voisine, justement, qui est en train de me pointer mon garçon qui a raté son bac, eh bien, soit visitée sans que j'ouvre la bouche. Hein. Et voilà un petit peu la grâce de l'impuissance. Et en plus, comme c'est notre Seigneur qui le montre à Sainte Marguerite Marie, c'est quand même quelque chose qui nous est à creuser. Donc, qu'est-ce que l'impuissance? Ça se dit tout seul, c'est une absence de puissance. Hein. Et mystérieusement, Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Hein. L'impotence, ou la toute-puissance, est un pouvoir sans limite et sans fin. Et chez Saint Thomas d'Aquin, on trouve, et ça c'est intéressant, il dit qu'elle éclate sa toute-puissance dans sa miséricorde. Donc, c'est pas du tout comme nous on l'imagine dans nos sociétés, d'écraser le voisin, de prendre la place. Hein. C'est le miséricordieux, le tout-puissant. Hein. Alors, miséricorde, Dieu, la miséricorde marche avec l'humilité. On ne peut pas être, miséricordieux si on n'est pas humble. Hein. Et l'humilité, les gens qui sont orgueilleux, on l'est tous, et moi la première, mais l'orgueil nous fait développer une certaine dureté de cœur. Hein. Il y a un manque de souplesse quand on a du mal à plier sur, hein, par exemple, changer de jugement par rapport à telle et telle personne, changer notre manière de voir sur telle et telle situation, on sent bien que c'est raide, hein, la nuque est raide. Donc l'orgueil nous durcit. Hein. La miséricorde, c'est pas non plus, contrairement à ce qu'on me fait véhiculer comme pensée, c'est pas l'effaceur et c'est pas du tout ça. Hein. C'est un amour qui se penche sur la misère de l'homme. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, des situations qui sont les vôtres, des fois intolérables et qui vous blessent, si on se regarde soi et qu'on regarde Jésus sur la croix, ben, il en faut de la miséricorde pour pouvoir accepter une situation qui nous humilie. Hein. Il en faut de l'amour pour pouvoir accepter quelque chose qui nous renvoie justement à rien. Hein. Et comme ce n'est pas une situation, ce n'est pas un état qui nous est naturel à cause du péché originel. Donc il faut bien une attitude divine pour accueillir, hein, pour être miséricordieux. Ce n'est pas du tout la tolérance. D'abord, pour moi, le mot tolérance n'est pas un mot chrétien. Hein, parce qu'à la longue de tolérer tout, on finit par tolérer tout. Et en somme, si vous voulez, pourquoi c'est pas chrétien? Parce que la tolérance devrait fonctionner avec vérité, hein, vérité, charité. Si on aime les gens, on a à leur dire la vérité, quoi. Et quand quelqu'un est dans le péché, on ne le juge pas, mais par contre, on a à lui dire, bah, là, tu t'en vas vers l'enfer. Et combien, je crois encore une personne qui me disait, si on m'avait dit, moi, quand j'ai avorté, que c'était un meurtre, je ne l'aurais pas fait. Sauf qu'on ne m'a pas dit que c'était un meurtre. Et donc, après, la personne, elle avorte pas, c'est son problème, on va dire, hein, si je peux faire si court. Mais on doit le dire. Hein, et c'est pour moi une miséricorde que de dire la vérité, parce qu'il faut du courage pour le dire. En somme, il faut de l'humilité. Voilà. L'orgueil nous rend en fait compte, on est faux par rapport aux gens. Hein. On se donne l'illusion d'être fort alors qu'on est faible. C'est une carapace de dureté. Hein. Alors, si j'avance, donc la miséricorde est le propre de Dieu, et c'est en cela que se manifeste au plus haut point sa toute-puissance. Ça, c'est saint Thomas qui le dit, saint Thomas d'Aquin. Et dans sa bulle sur la miséricorde, le pape François avait dit, ces paroles de saint Thomas montrent que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. Vous voyez, hein? Donc, c'est amusant de voir d'un côté la faiblesse, hein, de Dieu, elle est perçue comme justement une puissance, et cette faiblesse, eh bien, on y trouve la miséricorde. Hein. Donc ce jeu de faiblesse, de force, qui sont les nôtres, hein, parce qu'on a, par participation, par le baptême, on a la même participation à la miséricorde de Dieu, et on doit être miséricordieux. Donc on ne pourra pas l'être si on n'est pas faible. Hein. En somme, si on n'a pas fait l'expérience soi-même de la miséricorde de Dieu, comme Marie-Madeleine. Alors la miséricorde pour notre monde passe pour du sentimentalisme, et d'un autre côté, au nom de la miséricorde, certains se croient obligés de mutiler Dieu, de le déformer, de le dénaturer pour en faire un être fragile et faible. Voilà, je vous dis, l'expression, c'est enfin, l'effaceur, quoi. Voilà, c'est, il pardonne tout, il n'y a aucune démarche à faire. Non, c'est pas du tout ça. Si vous lisez le petit journal de Sainte Faustine, pour que Dieu exerce sa miséricorde sur nous, il faut reconnaître son péché. Hein. Et ça, c'est pour tout ce qu'on en est, c'est pas toujours une mince affaire. Hein. Entre avoir volé un carré de chocolat, ça c'est encore facile à confesser, mais justement avoir avorté, c'est autre chose. Hein. Donc pour en faire un être fragile et faible, comme s'il ne pouvait vraiment être miséricordieux qu'en étant lui-même sujet à la souffrance et à la douleur, comme si sa perfection d'être et de vie, sa plénitude de puissance et de bonheur devait l'empêcher de compatir, l'empêcher d'être vraiment miséricordieux. Hein. Dieu n'a pas besoin de souffrir pour être miséricordieux. C'est un attribut de son cœur. Hein. On en fait aujourd'hui un homme, si vous voulez, hein. On l'humanise au point qu'on lui enlève sa divinité. Je vous avais déjà fait un des parallèles avec saint Joseph, même si il n'est pas immaculé, il est saint, c'est le juste, mais surtout la Vierge Marie dans son Immaculée Conception. On se prive de cadeaux en les rabaissant à nos niveaux. Hein. Il faut qu'il reste divin. Dieu est Dieu. Et il s'est incarné, certes, mais si on lui enlève sa divinité, ben, on perd tout. Hein. Même si c'est un surhomme. Enfin, je veux dire, c'est, Et voilà qu'on nous invente une nature divine qui doit pouvoir souffrir, être triste, affligée. Une nature divine à l'image de l'homme, imparfaite et incomplète, vulnérable et fragile. L'infinie miséricorde de Dieu n'est pas causée par la faiblesse de Dieu, mais au contraire par sa toute-puissance dont elle est l'expression suprême. Oui, la miséricorde est un attribut royal. C'est le plus grand attribut du Christ, du cœur de Jésus. Un attribut du roi des rois, un attribut divin. Le plus grand attribut de son cœur. Et c'est en devenant nous-mêmes rois en Jésus par le baptême que nous devenons non seulement capables de miséricorde, mais appelés à devenir des êtres de miséricorde. Et du coup, des êtres tout-puissants à la manière du Christ que je viens de développer. Alors quand Jésus montre à notre Sainte Sœur son impuissance, il l'invite à être sa force et lui demande la communion fréquente. Alors, pourquoi il dit la communion fréquente ? Maintenant, à l'époque où Jésus parle à Sainte Marguerite Marie, on n'a pas l'habitude, dans les monastères, de communier fréquemment. Même si elle communiait, je vois la visitation, c'est quand même 3 fois par semaine, plus toutes les fêtes. En somme, ça faisait quand même des communions et elle pouvait communier avec la permission du confesseur tous les jours, hein, ou du père spirituel. Donc là aussi, on a des fois un peu durci. Alors aujourd'hui, c'est une grâce, bien entendu, de communier tous les jours. Hein, mais toujours pareil, dans notre vie religieuse, nous autres, mais c'est la même chose chez vous, on craint toujours, en tout cas moi, je crains toujours l'habitude, hein, la routine. Hein, vous voyez, vous êtes obligé de faire peut-être 2 kilomètres pour aller à l'église, de sortir la voiture, de prendre un vêtement. Moi, je sors de là où je travaille, je traverse, je fais 2 pas et j'arrive au cœur. Hein. Donc, il y a une facilité. Alors, évidemment, vous allez dire, c'est mon travail. Donc, tout est organisé pour que je sois toujours en union avec Jésus. Mais faut pas s'il n'y avait pas cette... ce travail de la vie spirituelle, de chercher toujours à être uni le plus qu'on peut à Jésus et de suivre la règle, eh bien, on peut tomber dans cette habitude. Et je l'ai des fois souvent dit, on est comme tiré par celui de devant et poussé par celui de derrière. Hein, et il n'y a rien de pire. C'est pas la quantité de communion que vous changerez, hein, mais c'est à la foi avec laquelle vous recevrez l'Eucharistie. Donc, moi, je peux que vous encourager. Notre saint fondateur lui dit dans l'introduction à la vie dévote, hein, lui, il encourageait pour son époque à la communion. Notre sainte mère communiait tous les jours. Hein. Il conseillait, il était pour la communion fréquente. Et il dit dans l'introduction à la vie dévote, et ce qui est très beau, la disposition requise pour une si fréquente communion devant être fort exquise, il n'est pas bon de le conseiller généralement, parce que cette disposition-là, quoique qu'exquise, se peut trouver en plusieurs bonnes âmes. Il n'est pas bon non plus d'en divertir et dissuader généralement à chacun, cela se doit traiter par la considération de l'état intérieur d'un chacun en particulier. Donc, c'est vraiment une question intérieure, de vie intérieure. C'est pas parce que ma voisine y va tous les jours que je dois faire pareil. Hein. C'est, y a une vraiment, qu'est-ce que je vais, comme il le dit après, pourquoi communier tous les jours ? Qu'est-ce que m'apporte la communion tous les jours ? C'est la grâce d'aimer Dieu, en somme. C'est par la communion qu'on aimera Dieu. Hein. Mais si on y va sans aucune préparation, hein, Sainte Marguerite Marie passait toute sa nuit à préparer sa communion du lendemain. Hein. Donc, quand on se réveille la nuit, ça doit vous arriver, moi ça m'arrive, eh bien, dans notre règle, ce qu'on appelle nous chez le directoire, eh bien, pensez à la communion de demain. C'est pas de passer une demi-heure au pied de son lit et commencer un chapelet qui nous préparera pas la multiplicité des paroles, l'attitude intérieure. Hein, c'est... il est qui pour toi, Jésus, que tu vas aller recevoir demain ? Ben, il est le feu, on fait compte. Donc, et comme j'ai peur de me refroidir, il faut que j'alimente ce feu intérieur. Hein. Alors, si je regarde ce qu'est la communion eucharistique, donc le père Croiset, qui est le directeur, entre autres, hein, après le père Claude de la Colombière, de Sainte Marguerite Marie, il dit « Il suffit de savoir ce que c'est que communion pour concevoir qu'il n'est point de moyen plus sûr pour être bientôt embrasé d'amour pour Jésus-Christ que de communier souvent. » Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en somme en allant communier? Si c'est simplement parce que c'est le commandement de Dieu, c'est trop court pour un garde-honneur. Et il n'est pas possible, dit le sage, de porter du feu dans son sein et de n'en être pas brûlé. Voilà. Donc quand on se refroidit, voilà, il faut aller le manger. Et comme je l'avais dit plus d'une fois, c'est plus lui qui a envie de se donner à vous que vous qui en avez besoin, en somme. Mais toujours avec l'histoire de l'impuissance, s'il vous met dans un état justement de fébrilité intérieure, ma prière est difficile aujourd'hui, j'ai une situation familiale qui est difficile, ma santé est défaillante, je me sens faible, eh bien, il va pouvoir déposer dans cette impuissance son propre désir de vous voir à la communion demain matin. Voyez, et c'est pas tous les dimanches de toute façon on va à la messe. Alors, bien sûr que c'est ça. Vous voyez derrière la dimension spirituelle qui nous évitera de rentrer dans un ritualisme. Moi je sais qu'à la maison c'était tout un ritualisme justement d'aller à la messe le dimanche matin. Ça fait bien partie du protocole des familles, c'est bon. Mais comment on peut nourrir en somme derrière notre vie spirituelle, hein? Voilà, est-ce qu'on s'approche du feu ou c'est, ça fait partie de mes prières. J'ai dit toutes mes prières, j'ai fait tous mes actes de piété ou mes dévotions. L'Eucharistie est l'expression la plus haute de la charité divine, de l'amour de Dieu pour sa créature. Par elle, Dieu manifeste à quel point il désire être avec nous. Donc, est-ce que je veux tous les matins être avec lui ? Pour toujours et à quel point il désire nous communiquer sa propre vie. Demeurer avec nous et en nous. L'Eucharistie est de la part de Jésus le don sans limite. Ceci est mon corps livré pour vous. Regardez là aussi encore l'impuissance de l'Eucharistie. On dit que c'est le don par excellence de la charité. Voilà, vous recevez tout Jésus, hein, toute la vie trinitaire qu'on va fêter demain. Et il se présente à un tout petit morceau de pain. Genre toujours chez Dieu, il y aura le paradoxe. Donc dans notre vie, il est nécessaire de le sentir. Hein. Cette toute puissance et après cette vulnérabilité, comme c'est facile de voler une hostie consacrée. Ouais, c'est facile. Hein. Un peu de manque de vigilance, hein, de la part du prêtre. Hein. Il y en a qui ont des astuces de fou, hein, pour voler une hostie. Hein. Mais ils savent que justement, hein, c'est le tout-puissant qu'on vole. Donc ce que nous recevons dans l'Eucharistie, c'est Jésus dans l'acte même où il donne sa vie pour tous les hommes, où il aime personnellement chacun et du plus grand amour. Donc pour donner sa vie dans cette impuissance, pour accepter cette impuissance, pour qu'il puisse se déployer dans sa toute puissance, recevoir l'Eucharistie comme c'est ça qu'il donne, hein, et en montrant son cœur, viens me manger plus fréquemment, si c'est l'acte suprême dans lequel Dieu se donne, si on le reçoit dans cet acte, comment ne serons-nous pas entraînés dans ce don extrême de sa propre vie qu'il fait aux hommes, comme nous on doit la vivre par rapport à nos frères et sœurs, hein? C'est sûr qu'il y a des impuissances, des choses qui nous terrassent dans nos vies. S'il n'y a pas cet élan intérieur du feu et du don que Dieu fait à l'humanité de sa propre vie, comment voulez-vous donner votre vie, hein? Comment voulez-vous la donner? Alors ce sera justement par, si on ne rentre pas là-dedans, on la donnera, mais à quelles conditions? Est-ce que je m'assure, je ne marche pas sur l'eau, hein? Attends, moi je veux des sécurités. Il hein? faut une assurance tout risque, c'est ce que font les gens. Hein? On passe sa vie à mettre des sécurités, des assurances. Hein? Et on dit, je veux bien, mais, voilà. Du coup, on supplante Dieu, on va prendre sa place. Alors avec toujours, attention, je ne juge personne, la bonne volonté. Hein. Si je donne ça, si je fais ça, qu'est-ce qui va me rester? Ben, est-ce que c'est des calculs du bon Dieu? Est-ce qu'il s'est demandé Jésus sur la croix? Où est-ce qu'ils vont aller jusqu'où, mes enfants? Non. Il s'est complètement donné. Tout son sang a été. Nous, est-ce qu'on va jusque-là? Alors, c'est sûr que dans une société qui monte au niveau violence et non-respect, on va dire, de la foi catholique, alors on peut mettre peut-être un peu tout, toutes les religions ou toutes les philosophies, parce que tout ça c'est un gros mélange, mais on sent bien que on ne peut pas dire qu'on est en soi tellement en grande sécurité dans certains quartiers, hein. Alors, c'est des exemples que je donne, chacun fait en fonction de sa vie intérieure avec Jésus. Hein. On n'est pas des copies-collées ni des photocopies. Donc, chacun est appelé à vivre des choses différentes. Mais c'est vrai que si on est dans cette démarche de « je m'abandonne à la providence, je me laisse conduire par Jésus, je suis dans ce don de l'offrande que fait le Fils à son Père pour le salut du monde », quand il m'arrive quelque chose, hein, que j'ai bien sûr pas prévu, parce que c'est plus rigolo, eh bien, dans quelle attitude je vais être? Est-ce que je suis capable de prendre justement la route sans me stresser, sans avoir fait tous les plans GPS possibles, inimaginables, pour être sûr d'être à l'heure? Et cette latitude qu'on va donner à Dieu pour qu'il organise nos journées. Hein. C'est aussi simple que ça quand on est gardonneur. Hein. Et par exemple, mon heure de présence, j'ai tendance à l'oublier. Alors évidemment, si on est archi tendu à l'idée de l'oublier, c'est sûr qu'on va l'oublier. Parce que dans cette impuissance, cette peur qui est justement une impuissance à l'oublier, on va mettre des sécurités. La sécurité, ce sera la tension. C'est-à-dire, clac, je tire, c'est moi qui conduis mon heure de présence. Ah, alors, mettez ça sur tous les événements de votre vie. Par contre, bah là, mon heure de présence, bah, Jésus, si tu veux que je sois au rendez-vous, tu t'arranges. Hein. Et c'est pas à toi qu'elle est faite, l'heure de présence. Est-ce que c'est la tienne ou c'est la mienne? Non, c'est la tienne. Bon, bah, c'est bon. Et puis, on part. Je peux vous assurer que dans cet dégagement, donc dans cette impuissance à gérer votre heure de présence, Dieu vous l'indiquera. Dieu n'est pas court de bras. C'est pas un manchot. Hein. Et, hein, c'est un Dieu tout-puissant. Voilà. Mais qui a besoin de notre impuissance pour se déployer. Voilà. Alors là, c'est un exemple, parce que évidemment, c'est notre garde, on est à la garde d'honneur, mais dans une vie de communauté où il y a bien des situations qui nous dépassent tous les jours, et surtout en plus quand on est entre femmes, enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas l'homme à tout faire, enfin, qui des fois rend service, hein, et bien. Combien de situations, il n'y a pas d'issue à vue humaine. Hein. Mais quand on se replace dans cette situation de Jésus, alors tout de suite, moi je prends 5 minutes, enfin, quand on m'annonce quelque chose, ou que ce n'est pas toujours très confort, je dis tout de suite, c'est tout est grâce et tout est permis par Dieu. Après, je m'assois et alors, tu veux quoi, Jésus? Ah bon, on comprend rien. Ah, c'est ça que tu veux, que je comprenne rien. C'est comprendre. Notre foi, ils ne nous demandent pas d'être bêtes. Hein. Par contre, comprendre avec Dieu, c'est accepter de ne pas comprendre avec notre intelligence naturelle. Il faut comprendre avec l'intelligence surnaturelle. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors moi, je ne suis pas Dieu, moi non plus. Par contre, je vous ai déjà évoqué plus d'une fois ce qu'on appelle les purifications. Hein. Ça veut dire, j'ai une situation d'impuissance, je vais accepter l'humiliation et je vais dire à Jésus, tu prends la place. C'est pas que j'avale la valda, je suis désolée d'être familière, mais je veux que dans cette humiliation, tu viennes ôter ce qui faisait mon socle, ma solidité, ma force, que tu te mettes à la place, donc je perds un peu de mon moi, c'est ça la purification, et je vais m'appuyer davantage sur toi. Et petit à petit, il nous transforme à travers l'Eucharistie, avec l'Eucharistie bien entendu. Mais c'est comme ça qu'on bascule d'une intelligence naturelle à une intelligence surnaturelle. On ne voit plus l'événement, le nez collé au guidon ou à la vitre, c'est-à-dire à l'événement en tant que tel. C'est la catastrophe, on ne va pas s'en sortir. Regardez notre monde, si vous croyez qu'on va s'en sortir, c'est mal parti. Hein. Enfin, je veux dire, moi, il y a une sortie, hein, à mon avis. C'est quoi? C'est le ciel. Hein. C'est le plan de Dieu, la sortie. Hein. Rien n'échappe, notre société n'échappe absolument pas à Dieu. Tout est voulu par Dieu. Seul Dieu est capable de transformer un mal en bien. Et c'est ça qui nous sauve. Nous, on ne va rien faire dans ce monde. Nous, on est juste chargé de réparer avec notre impuissance. C'est tout. Donc, avec son moyen, lui, c'est son cœur. Hein. Donc, est-ce qu'il faut comprendre quelque chose à... Il y a la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Les plans politiques, si ça vous intéresse, oui, mais je suis désolée, c'est que du mensonge. Voilà, c'est que de la manipulation. Donc, comprendre qu'on est manipulé, bah, c'est bien, mais savoir tout l'enjeu, ça ne sert strictement à rien. Si ce n'est à être manipulé un peu plus, hein, parce que vous êtes obligé d'écouter les réseaux, et puis à perdre du temps. Vous allez perdre du temps à faire tous ces trucs-là. Vous n'aurez pas de temps pour justement, on va dire, je vais exagérer, hein, jouir de la vie. Voilà, la vie spirituelle, vivre, jouir de Dieu en vous. Je veux dire, bah, prendre le vélo et puis partir en campagne. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux vous dire. Je m'en fiche pas de la souffrance du monde. Hein. Au contraire, je prie pour la paix. Mais attention, on est manipulé par des... comme si on nous faisait porter le chapeau, si vous voulez. Ben non, je veux dire, le vrai combat, il se vit à moi et Dieu. Voilà. Il ne met pas les vraies armes, c'est la vie spirituelle. Hein. Et donc, si j'accepte cette impuissance et de basculer dans cette vie, dans cette intelligence surnaturelle, je pourrais apporter une autre compréhension à ma vie spirituelle et du coup, je deviens un vrai soldat du Christ. Voilà. Et quand il s'agira justement de marcher à côté de la croix ou de la piétiner, ben c'est là que ça se jouera. C'est si j'ai accepté mon impuissance. Moi, je le dis maintenant de plus en plus. Quand le cardinal Sarah est venu en 2016, il disait « Nous, dans notre pays, on est habitués à voir de nos frères mourir pour leur foi. » Donc, ben, on sait ce que c'est que t'apostasie ou t'apostasie pas. Vous, votre société, vous êtes tellement installée qu'on apostasie. Je suis désolée, mais sans s'en rendre compte. Voilà. C'est le curseur se déplace, on ne s'en rend même pas compte. Voilà. Petit à petit, un péché n'en devient plus un. Hein. Voilà. L'avortement, ben oui, mais elle avait 16 ans, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec un petit de 16 ans? Ah bah c'est sûr, oui, vu comme ça, oui, mais ça, c'est un acte intrinsèquement mauvais. Après, on peut aider, etc. Voilà, mais c'est justement cette intelligence surnaturelle qui nous donnera les moyens d'aider en fonction de notre foi. D'accord ? Alors, j'avance. Du coup, je... ça c'est bon... Je me suis laissée, prendre par le Saint-Esprit. Comme il me reste un quart d'heure et qu'on va fêter le 27, la fête du Sacré-Cœur, et que je pense avoir largement développé l'histoire de l'impuissance et l'enjeu qu'il y a à accepter dans son impuissance le moyen de Dieu qu'est le Sacré-Cœur, et qu'on va fêter justement le 27. Et le Sacré-Cœur, quand il demande à Sainte Marguerite Marie... d'instituer une fête. Hein. Ah, elle était cette Marguerite Marie, c'est qu'elle n'avait pas du tout envie de demander à la Sainte Église d'instituer la fête du Sacré-Cœur. Elle a été obligée de demander plusieurs fois. Hein. Alors je vous lis le texte parce que c'est pas. On a tendance un peu à oublier. Bien sûr, c'est la fête en tout cas patronale pour la garde d'honneur, nous à la Visitation aussi avec la Visitation. Mais il y a une exigence dans la fête du Sacré-Cœur. Hein. En tout cas, si Jésus demande qu'on fête son Sacré-Cœur, il demande quelque chose de précis. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, dit la Sainte, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour. Voilà, donc là il met un peu de sucre, voilà, il essaie de le... il l'amadoue. Je me sentis touchée du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour, et il me dit... Tu ne m'en peux rendre plus un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. C'est amusant, hein? Donc quand Jésus réitère avec nous, quelle patience de Dieu, c'est pas grave. J'ai encore reporté à demain ce qu'il m'avait demandé. Ben voilà, cette patience, hein, ça fait partie justement d'acquiescer à nos impuissances. Alors, me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes Par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés. Alors, moi je suis consacrée, mais vous êtes consacrés par le baptême. Qui en use ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi, d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là. Donc, si on veut fêter le Sacré-Cœur, lui faire la fête, il faut communier ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable. Alors, c'est des mots qu'on n'entend plus, hein, mais c'est quand même toujours d'actualité. Pour réparer les indignités qu'il a reçues. Est-ce possible que Jésus, au Saint-Sacrement, reçoive des indignités? Ben ouais, s'il s'en plaint. Voilà. Hein. Les miennes, déjà. Hein. Quel temps je prends quand je fais ma génuflexion? Voilà, quand je passe devant le Saint-Sacrement, voilà. Est-ce que j'ai, à la sauvette, j'ai mes courses à faire, j'ai pas le temps d'attendre. Les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Par contre, la fête du Sacré-Cœur est liée à tous les outrages qu'il reçoit dans ses expositions. Vous voyez l'importance de l'Eucharistie et la réparation, tous les outrages quand Jésus est exposé sur nos autels. Hein. Vous voyez, quand on voit, nous on s'est battu et on continue, hein, grâce au Père Catroux qui est généreux pour venir nous exposer le Saint-Sacrement. Quand on a vu qu'on ne pouvait pas avoir d'aumônier de façon régulière, on s'est dit, pas question d'exposer le Saint-Sacrement, je ne prendrai pas, moi j'étais supérieure à l'époque, je ne prendrai pas la place du prêtre, même si je ne touche pas à l'hostie, je touche à la lunule, mais je prends une posture de prêtre. Hein, c'est pas mon rôle. Hein. Donc, on a installé cette petite plateforme là devant le tabernacle où le Saint-Sacrement est déposé. Du coup, on a juste à pousser. C'est pas des gestes qui nous sont donnés de faire. Alors, t'es rétro, t'es dégradé, t'es plus de ton époque. Si on veut, si vous voulez, mais enfin, revenons à la source, quoi. Jésus s'en plaint quand même, quoi. Hein. Est-ce que moi, je me suis toujours dit. J'aime beaucoup les beaux ornements. Eh bien, quand je vois un prêtre qui arrive, chape brodée au fil d'or, sur un drap d'or, brodée avec des couleurs. On avait une sœur ici, au 19e siècle, qui faisait ce qu'on appelle de la peinture à l'aiguille. Hein. Donc, elle s'était point par point, elle arrivait à faire des peintures, mais à l'aiguille, donc au fil. Hein. Donc, on a un ornement comme ça qui est magnifique, qui est donc tout plein de scènes qui est liée au Sacré-Cœur. Eh bien, quand il en est habillé, donc une chape pareille, un voile huméral encore couvert d'or, et la petite supérieure qui arrive, elle, pour juste prendre la lunule et le déposer dans le tabernacle, alors que le prêtre, il est couvert d'or pour exposer le Saint-Sacrement, et on dit, c'est la même chose. Il peut faire la même chose. Moi, ça m'avait, dans ma prière, je me suis dit, c'est drôle, il y a quand même un écart, quoi. Il y a quand même quelque chose, il y a un abîme. Hein. Ben voilà, c'est qui on expose? Qui on expose? Comment? Bien sûr, mais on n'est pas habilité à le faire. Hein. Et je veux dire, qui on expose dans le sens où, entièrement d'accord avec l'intention, je veux dire, le prêtre, il a aussi cette intention, mais c'est-à-dire que cette démarche extérieure qui nous est demandée, s'adresse au Dieu des dieux, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, par qui tout existe. Quand vous demandez audience, que ce soit au pape, ou vous avez vu tous les protocoles, on ne l'approche pas comme ça, hein, et puis ça reste un homme de fait de chair. Hein, et, donc voilà, et alors, on peut bien sûr s'approcher du Seigneur sans aucun, avec beaucoup de simplicité, mais quand même, ça laisse de mesurer. Si le Seigneur demande des réparations pour toutes ces indignités qu'il reçoit dans son sacrement d'amour exposé sur nos autels, ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire, c'est qu'on en fait quand même. Hein. Et ça, c'est bon d'en prendre conscience. Donc, je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Mais mon Seigneur, à qui vous adressez-vous, lui dit-elle, petite sœur Marie, Sainte Marguerite Marie, à une si chétive créature. Ah, à nouveau, l'impuissance. Et en plus, une pauvrette, une pécheresse, que son indignité serait même capable d'empêcher l'accomplissement de votre dessein. Vous avez tant d'âmes généreuses. Ça, on dit tout ça. T'as qu'à choisir la voisine. Pourquoi tu choisis pas le voisin, hein? Non, c'est toi que j'ai choisi comme garde d'honneur. Et je compte bien te voir à la messe le jour du Sacré-Cœur. Vous avez tant d'âmes généreuses pour exécuter vos desseins. Et quoi, lui dit ce divin sauveur? Ne sais-tu pas que je me sers des sujets les plus faibles pour confondre les forts? Voilà. C'est pas nous. C'est lui. Et que c'est ordinairement sur les plus petits et pauvres d'esprit sur lesquels je fais voir ma puissance avec plus d'éclat afin qu'ils ne s'attribuent rien à eux-mêmes. Je dirais la boucle est bouclée, hein, de ce que j'ai essayé de vous dire dès le début. Voilà. Donc, pourquoi il nous met dans ces impuissances? Voilà. Je dirais, bien sûr que Jésus veut réparation d'honneur, donc cette amende honorable qu'on est amené à faire, donc communion, hein, le jour de la fête du Sacré-Cœur, et cette amende honorable, donc nous, elle sera faite dans le prolongement de la Sainte Messe. La messe sera célébrée par un prêtre qui aime beaucoup le Sacré-Cœur, le père Pierre-Emmanuel Bouchot, qui viendra célébrer, un jeune prêtre qui aime beaucoup le Sacré-Cœur et qui viendra célébrer la messe. Donc dans le prolongement devant Jésus, hostie exposée, on aura l'amende honorable. Donc on fait réparation pour tous ces outrages qu'on a commis. Moi la première, je ne veux pas dire que j'essaie, mais bien sûr que je suis faillible. Attention, Dieu ne va pas nous attendre avec le gourdin à la sortie de la chapelle. Tu m'as mal salué, ce n'est pas ça la démarche. Hein. Mais c'est de se replacer dans... Si je veux réparer toutes ces marques de non-respect, est-ce que moi, j'accepte cette impuissance pour que tu répares à ma place? Voilà. Pour que je ne supplante pas ta place, même dans la réparation. Même dans la réparation. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On répare, on fait du social dans la réparation. Hein. On répare plus l'outrage que reçoit Dieu dans son sacrement d'amour, mais l'outrage, par exemple, du pauvre qui est au pied de la chapelle qui tend la main. Voilà. Non, c'est à Dieu qu'on la réparation s'adresse à Dieu et c'est par Dieu qu'on réparera, mais pas, ça devient sociétal nos réparations. Hein. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de misère, mais comme disait Jésus, des pauvres, vous en aurez toujours. Voilà. Donc, si Dieu demande une réparation pour son Sacré-Cœur, c'est qu'il est offensé. Voilà. Donc, prendre conscience que je l'offense quand je refuse mon impuissance. Parce que je ne lui donne pas les moyens, en somme, d'être son instrument pour réparer. Ça, je dirais, c'est l'offense par excellence. Si vous réfléchissez bien. Hein. Du coup, on répare par notre orgueil. Voilà. Donc, dire oui et découvrir dans sa propre vie son impuissance, c'est une grâce à demander le jour du Sacré-Cœur. Voilà. Et notre humanité serait beaucoup plus, notre monde serait beaucoup plus vrai et plus à même d'accueillir son Seigneur si on acceptait nos impuissances. Hein, je vous dis toujours, moi, je fonctionne d'abord, moi, j'ai le droit de le dire, c'est-à-dire que je fonctionne d'abord sur ma propre sanctification pour envisager la sanctification du monde. Ça ne sert à rien de partir en guerre. Le monde est pourri, il faut le changer, ça c'est des discours qui me... Oh, non, enfin, je dirais, change-toi et tu changeras ta famille. Change-toi et tu changeras ta femme. Ma femme prie pas, je suis tout seul à prier ou l'inverse. Eh bien, bah, change. Mais ce n'est pas à coup de chapelet que vous allez finir par l'étrangler, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. C'est, j'accepte ce que je vois dans ma femme que je vis mal, ou l'inverse, hein, ou dans mes enfants, pour qu'ils viennent prendre la place. Voilà. Donc là, j'accepte cette impuissance pour qu'il se déploie, et là, je changerai. C'est lui qui vous changera, c'est pas vous qui vous changerez. On ne change pas, et là, je signe, on ne change pas à coup de chapelet, on ne change pas à coup de prière. La prière est un oxygène qu'on respire, mais c'est pas elle qui nous changera. Hein. C'est Dieu qui change, c'est la vie divine qui change, c'est l'Eucharistie qui nous change. Hein. Donc il faut le faire rentrer en nous, et on le fera rentrer que si on a des failles, si on est impuissant. C'est que par là. Donc, tous les jours, il nous faut donc baiser notre impuissance en esprit. Il faut chérir nos impuissances. Pas notre péché, hein. Attention, hein. Faut la fragilité aujourd'hui, ok, on est des êtres fragiles et heureusement, mais le péché est à confesser, hein. Mais dans le péché, il y aura une faille. Et c'est celle-là qu'il faut chérir. D'accord ? Jésus, il va s'inviter, Jésus, dans vos failles. Et là, il faut le faire venir. Ouais.
C'est ce que ça intéresse à appeler sa petite.
Voilà, exactement. Voilà. Vous voyez, là vous parlez de Sainte Thérèse, puis je vais m'arrêter là parce que je pense que je suis dans les temps. Eh bien, rappelez-vous ce Noël, le fameux Noël où elle va guérir, hein, d'avoir pleuré. Hein. Donc elle va passer de l'âge d'enfant à l'adulte au niveau spirituel, et elle attribue cette grâce. Elle dit que c'est une grâce eucharistique. Hein. Et donc elle va sentir la charité rentrer en elle. Et elle va passer justement de pleurer, avoir la nécessité, le besoin de faire plaisir à Dieu. Voilà. Mais il a fallu qu'elle passe par là. Elle serait pas la grande Sainte Thérèse. La petite Thérèse qui déploie sur le monde ses pétales de rose, elle ne serait pas celle-là. Si elle n'avait pas senti dans sa chair ce qu'aujourd'hui on appellerait une dépression. Hein. Aujourd'hui, c'est très dur dans sa chair de sentir qu'on est malade. Qu'on est toujours limite, hein. Je suis toujours un petit peu dépressive. C'est un, en tout cas, moi aujourd'hui, je ne dis pas que je le suis, attention, mais par contre, ce que je dis, c'est un chemin de sanctification. C'est, la sanctification, c'est pas, je fais le jeûne de Médiougorier le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, lundi, mardi, nous dira notre saint fondateur, combien de jours, quel jour de la semaine vous jeûnez pas? Bah aucun, c'est pas ça la sanctification. Pas ça du tout. Hein. C'est sentir dans sa chair que j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un qui s'appelle Dieu. Pas sur mes sécurités, mais quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et du coup, il y a un basculement et on devient un autre Dieu. C'est comme ça qu'on changera le monde. La petite Thérèse, regardez, tous les attributs, en fait, compte, elle a pu aller puiser dans le cœur de Dieu et distribuer. Qui n'a pas reçu des grâces de Sainte Thérèse? Qu'est-ce qu'elle fait, Sainte Thérèse, à piocher dans le cœur de Jésus? Voilà. Mais vous, c'est pareil, hein, sur la terre comme au ciel, c'est la même chose qu'on est amené à vivre. S'il y a cette démarche intérieure avec Jésus, quand vous irez voir Jésus au tabernacle, Jésus, j'ai besoin de ça, ben, Jésus vous le donnera. Tout repose sur, je sais qu'il peut me le donner. Pourquoi on ne va pas le demander? Parce qu'on sait qu'il ne peut pas nous le demander, il ne peut pas nous le donner. C'est ça le problème. Parce qu'on est sûr de soi. Comment voulez-vous qu'il vous donne quelque chose? Si vous avez vos sécurités, ça ne rentre pas là-dedans, dans la fameuse intelligence naturelle. Il n'y a que dans l'intelligence surnaturelle que ça peut rentrer. Si je vais demander, même je m'amuse beaucoup moi, avec le Seigneur, donc je demande des choses très matérielles à Jésus. Parce que je sais qu'il peut me le donner. Parce qu'au niveau impuissance, je donne pas mal quand même. Au niveau, on va dire, charge, j'ai quand même de quoi faire. Et du coup, à chaque fois, je mesure que ça ne va jamais pouvoir le faire au niveau matériel. Et je vérifie bien que ça le fait, parce que je lâche les rênes. Alors, ça a été tout un travail sur moi. Hein. Mais c'est l'enjeu, si vous voulez, de la dévotion au Sacré-Cœur. C'est pas juste « Cœur sacré de Jésus, rends-moi semblable à toi ». Vous voyez toute la dimension de sanctification qu'il y a derrière l'amour du cœur de Jésus. Et c'est ça dont le monde a besoin. Et nous, en premier, pour être heureux. Parce qu'il nous faut montrer des visages heureux à notre société. Hein. Hein. Et les chrétiens, c'est pas dit... on n'est pas toujours, enfin je veux dire, des êtres épanouis. Hein. On va chercher des fois sur des choses qui sont les réseaux, par exemple. Je suis désolée, on n'a pas besoin d'Internet pour être bien. Hein. Et non, retrouvons, on est contaminé par la société. Hein. Et replongeons-nous en cette fête du Sacré-Cœur, justement sur cette impuissance. Jésus, montre-moi mon impuissance. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors là, je suis impuissante au niveau de ma voix aujourd'hui. Je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis un petit peu, comment dirais-je, dépassée comme toujours, fidèle à moi-même. En tout cas, je vous souhaite une belle fête du Sacré-Cœur. Hein, oui.
Je vais poser une question en dehors du sujet, mais qui Pierre quand même.
Un être, très bien.
Et ce fameux film du Sacré-Cœur.
Ah, très bien, ouais. Ouais, ouais. Alors, le sac, il, normalement, il sort. Alors, je, en tout cas, il, on, est, on sait qu'il il a tourné, etc. Il est fait. Alors, je crois qu'on commanderait en salle de cinéma, c'est septembre. Et ouais, l'année jubilaire termine à la fête du Sacré-Cœur, les 350 ans hein, des trois apparitions. Et alors, nous, on n'en sait pas plus. Hein. Par contre, ils sont venus donner leur témoignage. Non, c'est réel.
Oui,
donc,
mais c'est justement en fonction de ça, moi, j'avais cru entendre que ce sera en juin.
Alors, c'est sûr que. Alors, par contre, je sais que ça sort en salle en septembre. Et après, moi, je vous les subtilités des sorties de films, voilà. Comme en plus, si vous voulez, moi, je suis un petit peu plus qu'occupée à l'intérieur. Alors là, pour les réseaux, j'y vais pas. Mais je suis pas ça au taquet. Par contre, c'est clair que non, c'est bien vu de cette manière. Donc, comme disait Simone Gunnel, quand il a eu cette inspiration hein, du Sacré-Cœur de faire ce film. Il voulait que dans les rues, il y ait le Sacré-Cœur. Et on va enfin voir dans les rues le Sacré-Cœur. Et ça, c'est quelque chose de génial. Et alors, bien sûr que ça va, comment dirais-je, sûrement pas plaire ou que ça va plaire. Hein. Et ça, c'est pas notre problème. Notre problème, il est-ce que je compatis à mon impuissance ? Que Jésus soit mal reçu, par exemple. Hein, parce que ça va nous faire mal, ça aussi. Voilà, c'est une forme d'impuissance, de ne pas pouvoir rejoindre tout le monde. Mais Jésus peut, par mon impuissance, les rejoindre. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire. Je termine aussi sur le week-end de la Gare d'Honneur. Parce que là, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Hein, il y en a bien, tout le monde ne va pas avoir 2 mois de vacances. Mais je veux dire, voilà, vous allez peut-être prendre du temps en famille. Eh bien, on se retrouve normalement les 27 et 28. Alors, j'ai eu des petits avatars qui ne sont pas des avatars. Parce que si je me replace, c'est permis par Jésus et c'est voulu par Jésus. Donc, mon bon père Barnet, qui est le responsable de la Gare d'Honneur au niveau national, voulait venir, et ça, il s'en faisait une joie. À la sortie, après Pâques, il a été nommé à différents postes, enfin, il s'y attendait. Il me dit, reprenez contact avec moi, je vous dirai si je peux me déplacer en septembre. Il a vraiment trop peur de me faire faux bond le jour du week-end de la Gare d'Honneur. Donc il me dit, relancez-moi plutôt en janvier, parce qu'il sait que la Gare d'Honneur à Nantes, ça, en tout cas, elle est présente et on a quasi quand même toutes les semaines des inscriptions. Hein. Mais donc il voit pas du tout la possibilité de sortir, de s'extraire de ses différentes missions pour septembre. Alors la Providence conduisant toujours bien les choses, c'est donc le père Joël Guibert qui accepte de nous prêcher le week-end. Et en plus, comme il a une sortie de livre, donc Devenir hostie, hein, qui est, alors ça va être génial parce que donc ce livre il sera en vente bien sûr sur place. Peut-être que déjà vous êtes allé voir. Donc c'est devenir hostie. Donc c'est à nouveau donc c'est la vie victimale. C'est la vie d'un garde d'honneur. Alors attention, le mot fait peur, mais il n'y a pas à avoir peur. C'est l'âme abandonnée, l'âme victime. Hein. C'est celle qui, ce que je viens de vous dire, Sainte Marguerite Marie, je suis une pécheresse, je peux rien par moi-même. Je te laisse faire ce que tu veux de moi. Hein. Et comme ça, on est sûr de pas se tromper. Voilà. Et du coup, il pourra nous en parler. Donc, ce sera donc rendre hostie pour hostie, donc amour pour amour, vie pour vie. Normalement, c'est ça. Il doit être votre vie. Voilà. Du coup, les sécurités, elles tombent par elles-mêmes. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. On termine avec un Ave Maria, une belle fête du Sacré-Cœur. Et puis à la rentrée. Voilà. Donc, vous avez des tracts ici, si vous voulez faire connaître autour de vous, même s'il y aura de la relance en début septembre, parce qu'aujourd'hui, les comportements, si on annonce trop tôt, on oublie, si on annonce trop tard, on s'est déjà engagé. Bon, après, vous connaissez la date normalement. Après, pendant vos vacances, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qu'on a besoin. Hein. Et voilà, donc on termine avec Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Saint-Joseph. Saint-Jean. Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal. Saint-François d'Assise et Sainte-Marguerite-Marie. Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini. Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes. Et Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot. Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et belle fête de la Sainte Trinité, parce que, en fin de compte, c'est la même chose. La vie trinitaire, hein, la vie des trois, d'un Dieu en trois personnes, c'est le Dieu amour, mais qu'on a dans le cœur de Jésus. C'est la vie même du cœur de Jésus.